On est de retour en direct dans ce Cop Nord, évidemment un peu spécial avec ce match de l'équipe de France qui va débuter dans un peu plus d'une heure à la Decathlon Arena. C'est là d'ailleurs qu'on va retrouver nos journalistes Alexis Matteucci et Jean Duquesne. Vous êtes avec des supporters qui vont vivre une rencontre un petit peu particulière pour eux ce soir, Alexis.
Oui, parmi les 50 000 supporters qui seront présents au stade Pierre-Mauroy, alors il y a une équipe de l'ES Roncq qui va avoir le privilège de disputer un match à la mi-temps contre le club de Canfin en Pével. Vous les voyez hein, derrière moi, ils sont nombreux. Ils ont des belles vestes vertes, c'est malheureusement peut-être pas la bonne couleur ce soir puisque c'est les mêmes que l'Irlande du Nord. Mais ils auront la chance donc de fouler la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Alors comment vous vous sentez?
Très bien, j'ai hâte de le faire. À la mi-temps, le challenge orange.
Et toi?
Moi, c'est pareil.
Vous avez tout ça, toi? Ça va être un moment particulier, en plus, avant la Coupe du Monde, le match de l'équipe de France.
Tout, pareil, j'ai hâte.
Et toi?
Bah, la même chose, j'ai hâte.
Et toi, comment tu vas te sentir? Est-ce que... Toi, je pense que... Tu vas vouloir avoir la classe ce soir.
Non, je vais tout dégommer.
Voilà. Ça se voit que t'as l'air un petit peu plus motivé que les autres.
Oui.
Est-ce que vous avez un joueur préféré ce soir que vous allez pouvoir
Dembélé.
Voir Dembélé directement?
Ouais,
Dembélé.
Cherki.
Dembélé. Olise.
Olise.
Cherki, Olise, je sais pas, un peu pareil.
Bon, vous allez suivre l'équipe de France à la Coupe du Monde, on imagine aussi.
Ouais, ouais.
Vous les voyez aller où? Jusqu'à où?
Finale.
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 En finale, vous pensez qu'ils vont gagner ou pas?
Bah, évidemment.
Oui.
Oui. On a la meilleure attaque.
Racontez-moi un petit peu ce que vous allez faire à la mi-temps précisément.
En fait, il y aura un challenge et on sera au milieu de terrain et on aura 10 secondes pour marquer contre le goal. Et si on marque, ben on marque et voilà.
Et là, vous allez tous marquer là?
Bah oui,
bon, on va essayer.
On va essayer, on va tout donner.
Sûr.
Vous êtes en quelle catégorie d'âge?
U11.
U11.
C'était une bonne saison pour vous cette année?
Oui, c'était une très bonne saison.
Eh bien, trop bien. Merci beaucoup. Je vois que vous avez en plus tous des super beaux équipements. Je vous souhaite de passer un très bon moment et de ne pas l'oublier surtout. En tout cas, l'équipe de France va pouvoir disputer donc son premier match ici au stade Pierre-Mauroy 3 ans après son dernier. C'était face à l'Écosse et ça avait réussi à des enfants de la région. Benjamin Pavard avait inscrit un doublé.
Merci beaucoup Alexis Matteucci et bonne chance évidemment à tous ces jeunes U11 qui vont avoir la chance de jouer sur la pelouse de la Decathlon Arena. Allez, on va s'arrêter maintenant sur ce qui s'est passé récemment du côté du Racing Club de Nantes. Et il s'en est passé des choses, évidemment, du côté de l'Artois. Ça avait pourtant bien débuté avec une victoire 3-1 contre Nice en finale de Coupe de France. La première Coupe de France de l'histoire du Racing Club de Nantes. Où étiez-vous, messieurs, ce soir-là? Comment ça s'était passé pour vous, Benjamin? Toi, t'étais où?
J'étais au Stade de France.
Bonne ambiance.
Très bonne ambiance, magnifique, 55 ou 50 ou 55 000 en soi, ambiance de folie. On a eu chaud, très chaud. Et
c'était stressant.
Le match était très stressant.
Ouais, c'était
parce
stressant,
que pour
ça,
le coup, c'était vraiment un match de coupe où je trouve que Lens au milieu de terrain, c'est quand même bien fait, enfin détruire peut-être pas, mais on s'est bien fait bouger. On s'est bien fait bouger par les Niçois qui ont fait leur match. Si Risser ne sort pas 3-4 parades, le match n'est pas le même. À l'inverse, on mène 2-0 juste avant la mi-temps. Je pense que si on prend pas ce but-là, je pense qu'on leur en colle 4 ou 5 sur la fin du match. Je pense que le match est plié. Et ce but, juste avant la mi-temps, les remet en confiance. Et les 25 premières minutes de la deuxième mi-temps étaient très, mais même, très même au stade, on l'a ressenti, où l'ambiance a vraiment fléchi.
C'est à ce moment-là qu'on a entendu chanter les Niçois. Moi aussi, j'étais au stade. Et à 2-0, moi, j'étais confiant. Et j'étais juste derrière les buts. Il y a le corner. Et j'avais une crainte. Et Ils ont marqué le but et là ça a été.
Tu ressentais quand même le poids du.
Ouais.
Enfin, que ça sentait que s'ils gagnaient c'était historique, mais tu ressentais le poids de l'enjeu qu'il y avait parce qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux. Et pour une fois que Lens gagnait le Graal, enfin la Coupe de France, s'ils ne le faisaient pas contre un club qui joue le maintien, ça n'aurait pas été la honte, mais ça aurait été une énorme déception.
Une énorme déception. Et comme disait Benjamin, c'est. La reprise de la deuxième mi-temps, c'est on entend chanter les Niçois dans le stade, parce que personne n'est rassuré. Hein.
Et puis il y a la parade du dimanche aussi. Il y a cette fête, cette célébration dans Lens qui a été aussi un grand moment. Ça, pour le coup, c'était plutôt sympa.
Sans débordement, d'ailleurs.
À noter.
Ah, petite pique à Paris.
C'était le samedi.
C'était le samedi, pardon.
C'était le samedi, ouais.
Petit décalage horaire pour certains. Mais effectivement, bonne ambiance. Là, pour le coup, vraiment sympa. Ça fait plaisir de vivre ça. Mais c'était la petite transition que je voulais chercher parce qu'effectivement, c'était la fête qui était de courte durée puisque il y a eu une parade sans la Saint-Maximin. Oui, déjà, ça, c'était le premier couac. Ensuite, il y a eu un piercage dont la communication n'a pas forcément été très claire. Et il semblerait qu'il puisse prendre la direction de Crystal Palace. C'est vrai qu'il y a encore énormément de guillemets à prendre puisque c'est loin d'être officiel. Comment vous avez vécu ces derniers jours? Mohamed, toi, comment tu as vécu ces différentes annonces?
Alors, il y a eu déjà l'émission sur Téléfoot où il annonce qu'il va rester, où c'est, on va dire, le discours ambiant. Effectivement, il va rester. Donc, on se dit, on va repartir avec le même coach. On est plutôt rassuré. Et le lundi, dans l'after, c'est un tout autre discours. Et moi, à partir de ce lundi-là, pour moi, c'était clair, il partait.
Benjamin, tu t'y attendais à ça, à ce genre de départ ?
Un petit peu, parce que quand on suit un petit peu les directives sportives que peut donner le club par rapport aux prolongations de certains joueurs, mine de rien, Thomasson, notre capitaine, qui signe à Rennes avant la fin de la saison.
Mais lui, il part libre.
Oui, mais c'est pas un bon message qu'on donne. Et moi, à la place de Pierre Sage, malheureusement, je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais fait pareil. Les garanties sportives et financières, je pense qu'il les a pas eues auprès de sa direction. Le train pour l'Angleterre, je pense, ne passe qu'une seule fois. Il y a quand même peu d'entraîneurs français qui entraînent en première ligue. C'est le meilleur championnat au monde. Je pense qu'il va faire une cul de but x4, voire peut-être un peu plus sur son salaire.
Ouais, mais ça, en fait, moi je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas trop le cheminement de sa communication.
C'est-à-dire que le dimanche. Sur la forme, je suis d'accord.
On comprend parce que tu dis Thomasson, c'est un mauvais message. Mais Thomasson, tu le sais depuis longtemps qu'il va partir. Ouais. Tu sais très bien que les garanties financières, ils ne vont pas refaire la même bourde qu'il y a 3 ans avec Eli Wahi où ils le payent très cher. C'est, tout ça, tu le sais à l'avance. Ouais. Donc les garanties financières, tu sais qu'elles ne seront pas là.
Ouais, entre-temps, il y a peut-être eu une proposition un peu plus avancée du club anglais. Il y a peut-être eu aussi des échanges avec le staff lensois qui lui a confirmé que finalement les garanties n'étaient pas forcément là. Et puis Pierre Sage, faut pas oublier, c'est un entraîneur qui est originaire de Lyon. C'était le fruit de l'OL et il s'est fait balancer de l'OL de façon assez rapide alors que ses résultats n'étaient pas mauvais. Et il sait qu'une carrière d'entraîneur, ça peut vite tourner. Donc s'il a une opportunité.
Mais ça veut dire que derrière la Ligue des Champions, elle suffit même plus à garder un entraîneur. Un entraîneur sous contrat qui peut avoir un peu la main sur son mercato.
Mais tu vas en Ligue des Champions, si tu perds la moitié de ton effectif, tu perds tes meilleurs joueurs de chaque ligne, tu vas en Ligue des Champions pour faire quoi? Si c'est pour... aujourd'hui, il a la cote. Demain, l'année prochaine, on ramasse en Ligue des Champions, on fait un parcours chaotique, on végète en deuxième partie de tableau en Ligue 1, il a perdu toute crédibilité.
Je suis désolé.
Il faut qu'il soit carriériste aussi, si on se met à sa place.
Je suis d'accord, mais ça, il le savait avant. Donc, quand il dit à Téléfoot, je reste, moi, je suis pas d'accord. Tu peux dire autre chose. Tu dis.
Alors, je pense qu'à Téléfoot, il s'est un peu fait coincer parce que la question est posée sur un oui-non. C'est-à-dire qu'en fait, il peut pas argumenter. C'est soit oui, soit non. Fait un peu coincer sur cette question.
Moi, je suis supporter lensois. Si on m'explique pas tout de A à Z, l'arrivée de Cahuzac, peut-être que ça l'a gêné, machin. Eh ben, je ne comprends pas ça, la forme, en fait. Je ne comprends pas. Mais après, un club de Londres, tu changes complètement de vie, tu gagnes 4 fois le salaire, tu viens dans un club de Première Ligue qui a gagné un trophée européen. Évidemment, je comprends son choix, je suis d'accord.
Moi, je reviens à ce que tu dis. La Ligue des Champions, ça fait... J'ai l'impression que tu te qualifies en Ligue des Champions, ça fait plus rêver. Les joueurs, ils se qualifient en Ligue des Champions, ils s'en vont voir des contrats plus importants. Les entraîneurs, c'est pareil. Tu te dis, même avant, c'était tu te qualifiais en Ligue des Champions, tu avais tous les joueurs qui venaient taper à la porte.
C'est devenu pas banal, mais un petit peu. Quoi. Ça a perdu de son peps.
Ouais, c'est ça. Et c'est là où je suis vraiment, vraiment surpris. Quoi.
Bah justement, parlons de ces joueurs qui pourraient quitter le Racing Club de Lens. Il y a évidemment des noms, mais il n'y a toujours pas de certitude. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, Adrien Thomasson a rejoint Rennes. Wesley Saïd part direction les Émirats. Et pour l'instant, on a Saint-Maximin qui devrait prendre la direction de la MLS. Ouais. On a aussi, pour le coup, une bonne nouvelle, c'est quand même l'arrivée de Saoud Abdelhamid, qui lui a été définitivement acheté par le Racing Club de Lens. Est-ce qu'il y a des besoins pour vous, à cette heure-ci, dans un Racing Club de Lens qui va jouer 2 fois par semaine, quels sont les postes à remplacer en urgence du côté de Lens, Benjamin?
Bah pour moi déjà ce sera un avant-centre parce que au-delà du fait qu'on puisse garder ou pas Hudson Edwards, pour moi je suis pas persuadé que ce soit un attaquant qui ait le niveau européen. On a vu quand même que sur la deuxième partie de saison, ça a été très très poussif. Donc déjà, ce sera un avant-centre. Il se dit que Hudson Edwards, si Sage venait partir à Crystal Palace, il pourrait le suivre.
La piste, ce serait Pantaloni qui vient en entraîneur numéro 1 et qui vient avec Pagis. Ce serait une idée, quoi.
Mais c'est pas un neuf.
Au moins il pourrait remplacer Saïd, il pourrait pallier au moins un joueur dans le domaine offensif, ce serait au moins ça, quoi.
Oui. Après la piste Hazard, je ne sais pas où ça en est, parce qu'a priori lui était ok pour venir, mais aux conditions, enfin Pierre Sage, avec le projet Pierre Sage, pardon. Maintenant qu'a priori il ne sera plus là, est-ce que cette piste-là va tomber à l'eau? J'en sais rien.
Et d'ailleurs, tu parles par exemple d'Olivier Pantaloni pour prendre la succession de Pierre Sage. L'autre nom, c'est Patrick Vieira du Mans. Pour l'instant, ce sont que des entraîneurs qui n'ont pas de vécu européen. Est-ce que pour vous, ça peut être quelque chose d'inquiétant justement sur la construction du projet, pour convaincre des joueurs, pour aller justement jouer cette Ligue des Champions qui, semble-t-il, a perdu de sa superbe quand on cherche certains joueurs? Est-ce que ces noms-là vous rassurent ou plutôt vous inquiètent?
Alors, à une époque, j'aurais dit, moi, ça m'inquiète. Et je prends toujours le cas de Franck Haise, qui est sorti de la réserve pour.
Mais qui connaissait le.
Qui connaissait, mais. Mais c'était, moi, c'était un nom que je connaissais pas. Si, je voyais son nom. Et il a fait le parcours qu'il a fait. Pierre Sage également, quand il était à Lyon, il vient de la formation, il fait un travail excellent.
Après,
j'ai envie de donner la chance entre les deux.
Benjamin et après Guillaume.
Je trouve qu'il y a une différence quand même entre les deux, c'est-à-dire que alors j'ai plus son nom, l'entraîneur du Mans,
Vieira,
a plus le profil à la Haise ou à la Sage, parce que c'est un entraîneur plus jeune. Moi, ce que j'ai peur avec Pantaloni, c'est que c'est un entraîneur qui a 59 ans, donc en fait qui a déjà du vécu, et aujourd'hui il a fait, à ma connaissance, une seule bonne saison, c'est-à-dire celle qu'il vient de faire avec Lorient.
Mais qui connaît Yannick Cahuzac, qui intègre le staff,
après,
etc.
L'excellent, c'est pas la mafia corse non plus. Donc
on va dire ça à Jean-Louis Léca.
Moi, aujourd'hui, Pantaloni, il a très peu de références, et c'est ça, moi, qui m'inquiète.
Guillaume ?
Je suis d'accord. Après, moi, si je suis supporter de Lens, pour l'instant, je continuerai de faire confiance à Jean-Louis Léca. C'est ça, parce qu'en fait, t'as pas non plus pléthore d'idées. Hein. Si y a cette Pantaloni qui arrive, et ben oui, ben, sur le papier, c'est pas ronflant, mais en tout cas, il va s'entendre avec les personnes qui sont concernées. Aujourd'hui, il y a Cahuzac. Au moins, tu auras un socle sur lequel tu pourras t'appuyer. Mais évidemment, tu ne vas pas aller très loin en Ligue des Champions. Et il faudra limiter la casse, c'est ça. Et puis, rester dans le top 8, c'est un peu ça l'objectif de Lens.
Et juste une dernière question, puisque ce n'est pas encore officiel pour le départ de Pierre Sage. Mais est-ce qu'il est allé trop loin? Est-ce que si jamais ça capotait, par exemple, avec Crystal Palace, il pourrait quand même rester en place avec Jean-Louis Léca? Ou pour vous, c'est fini, il faut déjà tourner la page?
Moi, ça me paraît très, très compromis. Parce que le Bordelensois avait communiqué en disant qu'il avait proposé quand même de rester encore une année. Et partir après, et la réponse a été on va pas garder quelqu'un qui a la tête ailleurs, quoi. Et je pense que ça a été
il y a la jurisprudence Rudy Garcia à Lille, on voit tout dans le foot, hein, des entraîneurs qui annoncent partir, qui finalement reviennent pour des questions contractuelles, donc rien n'est fermé, mais c'est vrai que ce serait quand même un sacré retournement de situation.
Et ce serait effectivement quelque chose de nouveau et de supplémentaire à gérer dans cet été que le Racing Club de Lens risque de voir mouvementer. Du changement, il va y en avoir bientôt à la tête de l'équipe de France, on l'a dit, c'est le dernier match ce soir de Didier Deschamps en France à la tête de l'équipe de France, le sélectionneur qui va vivre sa dernière compétition avec les Bleus. Et évidemment, on va pouvoir prendre la direction de cette Décathlon Arena où on retrouve nos journalistes Alexis Matteucci et Jean Duquesne. Alexis, Didier Deschamps est-il dans toutes les bouches des supporters ce soir ?
Mais avec quoi, toi ?
Alors on en entend beaucoup parler effectivement de la dernière de Didier Deschamps. On sait déjà qu'un tifo va être mis en place dans l'ensemble du stade par la fédération. On les a rencontrés tout à l'heure aussi, les membres des Irrésistibles français vont rendre également hommage à Didier Deschamps comme ils l'ont fait lors de la rencontre à Nantes face à la Côte d'Ivoire. Didier Deschamps, c'est plus de 14 ans à la tête de l'équipe de France. On s'en souvient, son premier match, c'était en 2012 au Havre, un triste 0-0 face à l'Uruguay. Eh bien, le temps a bien changé depuis cette première, avec le titre de champion du monde acquis en 2018 et les deux finales, celle de l'Euro en 2016 et celle de la Coupe du Monde en 2022. Je suis avec d'autres supporters de l'équipe de France, vous les voyez. Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir votre prénom s'il vous plaît?
C'est Maxime.
Alors Maxime, je vois que vous êtes prêt ce soir, vous avez des couleurs un peu partout dans les cheveux, ouais. Du bleu, du blanc.
Et du rouge.
Non, pas encore de rouge.
Ah bah, c'est un manque, on va y remédier.
Voilà, c'est important d'être près de toutes les couleurs ce soir, bleu, blanc, rouge, aux couleurs de la France.
Ah ouais, bah c'est les couleurs de la République, c'est important. Et surtout pour la dernière de M. Deschamps, c'est important aussi, effectivement.
Justement, vous la suivez, l'équipe de France, ou c'est votre premier match que vous allez voir
C'est le premier match, effectivement, que je viens voir pour le football. J'ai suivi les Jeux Olympiques ici, pour l'équipe de France aussi. Mais pour le football, ouais, c'est la première.
Ça va être un moment particulier, justement, bah la dernière de Deschamps.
En plus, les copains qui sont là, c'est super important. Et puis l'ambiance, partager ça, et puis on a croisé des Irlandais aussi. Et voilà, c'est très bonne ambiance.
On sent, c'est ça, que l'atmosphère est bonne enfant. C'est un peu le maître mot avant justement le premier match de l'équipe de France à la Coupe du Monde, leur donner toute la force.
Ouais, le but c'est ça, c'est de supporter au maximum. L'idée c'est de partager ça avec tous les gens qui sont présents. Et surtout, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, donner de la force et les encourager. Ils ont perdu le dernier match. L'idée c'est qu'ils arrivent à partir aux États-Unis avec une nouvelle victoire, pour essayer de gagner au maximum de confiance pour essayer de gagner là-bas.
Justement, vous êtes venu avec des amis. On les voit, ils sont juste là derrière. Il y a également d'autres supporters avec des chapeaux que vous voyez sur les images de Jean Duquesne. Mais si on peut se tourner vers les amis de Maxime. Alors vous aussi, vous avez tenté la couleur bleu, blanc, rouge. C'était peut-être plus facile à faire tenir, non?
Effectivement, beaucoup plus facile que pour les copains, en effet.
C'est vous qui avez entraîné votre copain justement pour son premier match de foot?
C'est vrai, c'est moi qui lui ai proposé de venir au stade, au grand stade, pour supporter les Bleus avant le départ aux USA.
Allez,
on the road to the USA 2026.
Voilà, vous le voyez, les supporters français sont chauds. Ça fait 3 ans que l'équipe de France n'était pas venue ici au stade Pierre-Mauroy. Alors, ils sont décidés à faire du bruit, surtout avant le départ de l'équipe de France à la Coupe du Monde.
La fameuse Coupe du Monde. L'erreur qu'a fait Jacques Chirac en 98, c'est Alexis Matteucci qui nous l'a refaite ce soir en direct. Plus sérieusement, Alexis, j'espère que vous pourrez être maquillé d'ici votre prochaine intervention dans un petit quart d'heure. Vous avez juste évoqué, effectivement, il y a quelques instants, les supporters irlandais. Ils sont à peu près 600 ce soir et ils ont fait un petit peu de bruit dans la capitale des Flandres. Résumé de leur journée avec Mathilde Aydry.
Ce lundi, de nombreux maillots verts ont envahi le centre-ville de Lille. 600 supporters nord-irlandais ont fait le voyage pour assister au match amical contre les Bleus. Si la France fait partie des favoris pour remporter la Coupe du Monde, l'Irlande du Nord, elle, n'a pas réussi à se qualifier. Le match de ce soir est sans enjeu, mais avec une belle affiche.
La France a une meilleure équipe avec des joueurs de haut niveau, donc on va être compétitif, j'espère.
Voir certains des meilleurs joueurs, voir Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué au top de leur forme contre nos gars, je ne pouvais pas manquer ça.
Ce déplacement est avant tout l'occasion de supporter leur équipe à l'étranger. Eux qui n'auront pas la chance d'accompagner leurs joueurs aux États-Unis.
Oh, Ireland, easy. North Ireland, easy.
L'Irlande du Nord va gagner, facile. Mbappé qui ?
On est excités, ça va être un bon match, ça devrait être amusant. Peu importe le résultat, ça devrait être marrant.
Pour la majorité d'entre eux, la fête a commencé dimanche soir. Depuis, les terrasses des bars ne désemplissent pas.
Pourquoi pas, je pense, prolonger. Ça, c'est fort possible. S'il y a beaucoup de monde, on va peut-être pouvoir pousser un peu plus longtemps que la fermeture habituelle.
Ce lundi soir, jusqu'à 50 000 supporters français et nord-irlandais sont attendus au stade pour le dernier match de préparation des Bleus avant leur envol pour les États-Unis.
Et on va maintenant revenir sur les nombreuses actualités, cette fois du côté du LOSC, puisque ça a été rapidement officialisé après la saison, le départ de Bruno Genesio, remplacé donc par Davide Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti. Alors on va vous faire une rapide présentation, hein, si vous ne connaissez pas celui qui a longtemps été l'adjoint du Mister. Il a 36 ans, il a suivi son père au Bayern, à Naples, à Everton, au Real de Madrid. Il a fait quand même une première pige en tant que numéro 1, c'était à Botafogo en 2025. Bilan plutôt honnête, hein, 15 victoires, 10 nuls et 8 défaites en 5 mois, et licencié par un jeune textor qu'on sait très versatile. Il est actuellement dans le staff du Brésil, il va faire la Coupe du Monde avec son père et arrivera à Lille dans un mois. François, est-ce que pour toi c'est le successeur idéal à Bruno Genesio, ou ça ressemble à un pari un peu risqué fait par Olivier Letang?
c'est un pari, mais qui n'est pas aussi risqué que certains veulent bien le penser, à mon avis, parce que c'est un entraîneur qui n'a certes pas d'expérience en tant qu'entraîneur de premier niveau, mais qui a beaucoup travaillé avec son père dans des gros clubs européens. Visiblement, ses fonctions dépassaient un peu celles d'un simple adjoint. Il assistait son père en analysant les matchs. Il y a quelques vidéos qu'on voit où il propose des remplacements à son père. Enfin, il avait vraiment un rôle assez actif. Il a un jeu plutôt offensif, ça va nous changer, un jeu direct. Donc ça fait quand même quelques entraîneurs qu'on n'a pas vu ça à Lille. Moi, je pense qu'il faut donner sa chance au produit. C'est un risque, mais je pense un risque calculé d'Olivier Létang.
Et Olivier Létang qui justement avait expliqué rapidement pourquoi il avait fait ce choix-là du fils de Carlo Ancelotti. On l'écoute.
Davide a eu l'habitude de travailler dans des grands clubs. Quand on parle du Bayern de Munich et du Real Madrid, on a des staffs qui existent. C'est-à-dire qu'autour de l'équipe professionnelle, vous avez entre 35 et 40 personnes qui travaillent. Donc un entraîneur n'arrive jamais avec 35 ou 40 personnes. Ce sont des gens effectivement qui sont du club, qui sont choisis pour leurs compétences mais aussi pour les qualités humaines. Et dans les discussions qu'on a avec Davide, on a probablement des membres du staff technique qui vont arriver, qui devraient être de 2 ou 3 personnes. Et l'objectif, ça va être de mettre Davide dans les meilleures conditions pour que lui atteigne ses objectifs, pour que nous puissions atteindre nos objectifs en tant que club.
Guillaume, il y a cette question qui se pose aussi. Il arrivera le 1er juillet. Techniquement, le mercato lillois devrait être quand même assez avancé.
Tu veux dire qu'il arrivera après la Coupe du Monde? Ça dépend quand, si le Brésil va loin ou pas. Ça dépend s'il gagne la Coupe du Monde.
Oui, mais il arrivera après les premières grandes lignes du mercato qui ont été dressées. Est-ce que ça peut être un problème quand on est un nouvel entraîneur qui a un peu d'attente et qu'on sait que l'expérience, du moins en tant que titulaire du poste, est limitée?
Si le LOSC jouait les barrages Ligue des Champions, on les a bien connus, je dirais oui. Mais sinon, non, il fera ça en distanciel. Et je pense que ça posera pas trop de problèmes. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, on le connaît pas en tant que numéro 1. Et tu posais la question, est-ce que c'est un pari? C'est clairement un pari, parce que là...
Est-ce que c'est un pari risqué? C'est ça la question, surtout. Parce que oui, c'est un pari.
C'est un pari risqué, vu que c'est un pari. On n'a aucune référence sur lui. Il a joué à Botafogo dans un contexte que tu as rappelé, avec John Textor. En plus, Botafogo venait de avoir la meilleure saison de leur histoire, la saison d'avant, donc va passer après ça, c'est quand même très compliqué. Je sais pas, apparemment, je fais pareil que Lens avec Jean-Louis Léca, moi je fais confiance à Létang, justement, avec qui on a des références, et lui, il lui fait confiance pleinement. Je fais confiance à Monsieur Létang, et on va voir ce que ça va donner sur une saison.
Oui, puis je pense que avec son nom, même s'il faut pas insister sur son nom, il est censé avoir un réseau quand même pour assister dans le mercato. Je pense que s'il est venu, c'est qu'il a aussi eu pas des garanties, mais en tout cas une tendance sur le projet du LOSC lors de ce mercato d'été qui va devoir compléter et enrichir.
Tu penses qu'il peut avoir des exigences, Davide Ancelotti, en disant moi je veux tel et tel joueur et que c'est ça qui l'aide à se décider?
Il a peut-être fait sa liste de commissions avant, pas forcément en connaissant les contraintes budgétaires lilloises, hein, ça c'est clair, il va pas arriver en demandant à faire
revenir
à faire
Jonathan signer, David.
Tout à fait, je crois qu'il.
Zegrova.
Zegrova serait possible, je pense.
Oui, c'est ça, c'est pas forcément comment dire une impossibilité. Non, mais il connaît le contexte lillois, il connaît la quantité d'argent dont on dispose pour ce mercato, mais même s'il est à distance, il y a ses adjoints qui sont là, qui vont commencer la préparation physique, et il a certainement donné quelques pistes pour le mercato, en tout cas au niveau des postes à renforcer pour ce prochain mercato.
Benjamin, pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise idée qu'a eu Olivier Létang de confier ce poste à Davide Ancelotti?
Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, hein, Paris, ça c'est sûr. Après, moi, la question que je me pose, c'est parce qu'on avait entendu quelques noms, entre autres, depuis un petit moment, Thiago Motta, est-ce que c'est pas lui qui a été pris par défaut, peut-être? Je sais pas.
Thiago Motta, on a très vite entendu qu'il n'y a eu aucun contact, et surtout que la collaboration avec Olivier Létang était limite impossible.
Mmh. Après, c'est sûr que sur son profil, il a appris auprès de l'un des meilleurs coachs au monde, en l'occurrence
après,
son père.
Après, le LOSC, ça quand même. Maintenant, ils ont un statut, le LOSC. C'est le meilleur club en France derrière le PSG. T'es toujours top 5, tu fais toujours en Coupe d'Europe.
Parce que c'est pas une pression supplémentaire, bah d'autant plus de passer après Bruno Genesio.
T'as un nom, faut te faire un prénom, succès. Et en plus faut assurer avec la Ligue des Champions qui est très très énergivore, on le voit tout le temps. Si Lens a fait cette saison, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de Coupe d'Europe. Ça, c'est clair et net. Sinon, ils n'auraient pas fini deuxième derrière le PSG.
Le dernier, à ma connaissance, qui avait appris avec Carlo Ancelotti a fini avec trois Ligue des Champions d'affilée. On espère évidemment.
Et tu parles évidemment de Zinedine Zidane.
Tout à fait.
le même destin lillois, évidemment.
Après, moi, je pense que les temps, il est pas naïf pour prendre le premier entraîneur qui passe. Et je pense que ça a été très bien réfléchi de sa part en voyant chez Ancelotti ce qu'il cherchait au niveau des entraîneurs.
Puis il connaît son travail. Il a croisé à l'époque du PSG. Donc, il sait comment il fonctionne. Il sait les qualités d'analyse qu'il peut avoir. Donc, il y a quand même... c'est pas un nouveau venu, un bisu qui arrive du Diable Vauvert. Il a fait ses preuves en tant qu'adjoint, en tant que technicien du football. Et il va apporter des idées un peu nouvelles pour le LOSC. Moi, je pense que c'est...
C'est quelqu'un, apparemment, qui connaît très, très bien le projet du LOSC.
Oui.
Alors, ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'il va emmener les joueurs... Genesio ou Fonseca.
En parlant de joueurs, déjà, il y a une première bonne nouvelle qui est tombée aujourd'hui pour ce fameux mercato lillois. C'est l'officialisation d'une prolongation, celle d'Olivier Giroud. Résumé de la situation tout de suite avec nos confrères d'RMC Sport.
Olivier Giroud empruntera de nouveau le chemin de l'entraînement au domaine de Luchin la saison prochaine. Auteur de 11 buts en 44 matchs, toutes compétitions confondues avec le LOSC cette saison, l'attaquant de 39 ans sera toujours lillois lors du prochain exercice. En fin de contrat, le recordman de buts en équipe de France prolonge l'aventure d'un an avec les Dogs. L'expérience du joueur, notamment passée par Arsenal, Chelsea ou encore Milan, sera précieuse pour le nouvel entraîneur nordiste, Davide Ancelotti.
Alors, il y a donc ce choix d'Olivier Giroud de prolonger d'un an. François, il y a d'autres joueurs qui sont en fin de contrat. Bentaleb, Meunier, est-ce que tu attends, espères d'autres prolongations ou pas?
Dans la liste qui est citée, effectivement...
Mandy,
Meunier, Bentaleb...
Mbemba, lui, a officialisé son départ.
C'est pas une surprise. Donc, ça reste une des priorités, en tout cas, initiales du mercato. C'est la prolongation de au moins deux de ces joueurs. Je pense notamment à Bentaleb et Mandy, qui sont peut-être les plus difficilement remplaçables.
Meunier fait une super fin de saison.
Oui, tout à fait. Mais
il est agent libre, voilà, en plus.
Il a agent libre. Et puis il y a Thiago Santos qui peut-être peut revenir. Donc, le contexte est un peu différent. Giroud, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un joueur qui est sympa, qui est médiatique, qui donne une belle image du LOSC à l'étranger et en France. Après, j'espère qu'il re-signe en tant que troisième avançante et pas en tant que deuxième, parce qu'avec l'absence d'Igaman en début de saison, il ne faut pas refaire la même erreur que la saison dernière.
D'ailleurs, quel recrue tu attends de voir? Quel poste il faut renforcer à cette heure-ci s'il n'y avait pas d'autres départs du côté du LOSC? C'est quoi l'urgence?
Il faut des arrières latéraux en complément. Il faut un attaquant axial supplémentaire. Il faut des ailiers, pour aller dans le projet finalement d'Ancelotti qui a un jeu de transition. Il faut des joueurs qui savent centrer, qui savent déborder, ce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui au LOSC.
En tout cas, s'il fallait centrer, ça ferait plaisir à Olivier Giroud, qui lui a montré en tout cas qu'il en avait encore sous la semaine.
Je suis d'accord avec François. Il faudrait renforcer le côté gauche puisque au niveau de la saison, je pense que Verdonck, qui est le remplaçant de Perrault, a peut-être pas le niveau Ligue des Champions. Je pense que Félix Correa, qu'on a beaucoup critiqué à juste titre, ça dépend pour qui, faudrait peut-être le remplacer aussi. Donc c'est le côté gauche qu'il faudrait pallier. Et parce que sinon, les atouts offensifs, il y a Sarawi qui va revenir, il y a Mbappé. Après, c'est toujours, faut espérer que beaucoup ne soient pas blessés, comme Thiago Santos, et espérons qu'il va revenir. Igaman, quand est-ce qu'il revient exactement? Parce que si tu as Fernandez Pardo, Giroud et Igaman en attaque, ça devrait le faire. Mais le problème, c'est que la saison dernière, pendant 6 mois, il n'y a pas eu Igaman. C'est ça le problème.
Et on l'a bien compris, donc effectivement, l'été sera aussi mouvementé du côté du domaine de Luchin. On se quitte quelques instants, le temps d'une courte page de pub, et on reprendra de nouveau la direction de la Decathlon Arena avec le compte à rebours qui continue de s'égrener du côté de l'équipe de France qui affronte ce soir l'Irlande du Nord. À tout de suite. Désolé Noémie Morgan. Retour donc à l'actualité et au match de l'équipe de France avec cette rencontre ce soir face à l'Irlande du Nord. On connaît d'ailleurs le 11 titulaire choisi par Didier Deschamps. On en reparlera dans quelques instants, mais très peu de surprises. En tout cas, on a Mike Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez, avec Tchouaméni, Rabiot au milieu, Dembélé qui fait son retour dans le 11 de départ, tout comme Désiré Doué et Michael Olysee. Sans oublier donc en pointe, Kylian Mbappé. Pas forcément de surprise dans ce 11 de départ, mais du spectacle annoncé du côté de la Decathlon Arena. C'est là où on retrouve notre journaliste Alexis Matteucci, accompagné de Jean Duquesne. Justement, Alexis, Vous aviez croisé tout à l'heure ces supporters venus faire floquer leur maillot, notamment au nom de Désiré Doué. Qu'attendent les supporters du match de l'équipe de France ce soir? Un match de spectacle avec de l'ambiance?
Alors les supporters, ils sont à peu près 50 000 à venir ici au stade Pierre Mauroy, aux couleurs de l'équipe de France. Vous le voyez, je le suis moi aussi, Paris tenu sur ma joue. Comme promis, je suis bien maquillé aux couleurs de l'équipe de France. Vous le voyez aussi également, je suis devant Mike Maignan qui lui sera bien titulaire, l'enfant du coin, ancien Lillois. Mike Maignan, gardien titulaire de l'équipe de France, le gardien de l'AC Milan. Vous le voyez aussi sur les images de Jean Duquesne. Les supporters continuent d'arriver ici sur le parvis du stade Pierre Mauroy. Il y a des Nord-Irlandais également. Ils seront à peu près 600 ce soir à être présents. On va aller tout de suite à la rencontre de certains d'entre eux, les supporters. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Est-ce que je pourrais avoir votre prénom s'il vous plaît?
Je m'appelle Fabre.
Alors est-ce que je peux vous demander... qu'est-ce que vous attendez de ce match ce soir? Pourquoi vous êtes là?
Alors, c'est la première fois que je vais voir un match de l'équipe de France. Je suis super pressé, je vais voir mes joueurs préférés, ça va être trop bien. Et j'attends mieux contre la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça.
Évidemment, une défaite pour partir à la Coupe du Monde, ce serait pas le mieux. Donc, tu as un joueur préféré ce soir?
Michael Olise.
Pourquoi Michael Olise particulièrement?
Coup de cœur depuis 2023, depuis qu'il joue à Birmingham, Reading, etc. Ah non, c'est un coup de cœur.
Donc là, on a affaire à un sacré suiveur de foot, c'est ça?
Un petit peu quand même.
Donc première expérience avec l'équipe de France ce soir. Ah,
tout à fait, j'ai la chance de pouvoir venir et franchement c'est la pression allemande, ça fait du bien.
Tu viens d'ici, t'es du quoi?
Ouais, je viens du nord, je viens de autour d'Arras, donc ouais franchement c'est pas mal, en plus à Pierre Mauroy c'est cool.
Voilà. Dernière de Deschamps ce soir en plus.
Ouais bon on verra, normalement Zinedine Zidane après, mais franchement Deschamps il a accompli pas mal de choses, donc franchement c'est cool. Hein.
Super, merci beaucoup Fabre. On va tout de suite aller voir d'autres supporters. Alors que vous voyez les supporters nord-irlandais également qui arrivent sur ma droite, là. Il y en a encore d'autres juste ici. On va aller voir un autre supporter avec le maillot, lui aussi, de Michael Olise. Vous le voyez dans son dos. Voilà. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Est-ce que je peux vous poser quelques petites questions rapidement pour BFM Lille? Comment vous appelez?
Tom.
Tom, alors vous avez un super maillot là de Michael Olise, le maillot extérieur.
Oui, voilà, merci.
Pourquoi Olise?
Pour moi actuellement c'est l'un des meilleurs joueurs du monde.
Et pourquoi vous êtes venu voir ce match ce soir? C'est un moment particulier.
Ouais, c'est le dernier match avant la Coupe du Monde, match de préparation. Et voilà.
La dernière de Didier Deschamps aussi.
Ouais voilà, ouais, en France.
C'est un moment unique de pouvoir vivre ça.
Ouais.
Pronostic pour ce soir peut-être? Et pour la Coupe du Monde aussi?
Gagnant de la Coupe du Monde et 3-0 ce soir.
Ok. Et bien pourquoi pas, on l'espère en tout cas nous aussi sur BFM Lille, alors que vous voyez les supporters continuer d'arriver avec une belle Coupe du Monde ici, vous la voyez.
On a ramené la Coupe du Monde et on va la gagner.
Voilà, votre pronostic pour la Coupe du Monde justement.
Pronostic, bah, la France en finale obligatoire, obligé, et on l'a, elle est là. Même si c'est un petit prototype, mais c'est pas grave, on va la gagner quand même.
C'était important pour vous d'être là ce soir?
Très important, un bon match avant de partir pour les États-Unis pour la Coupe du Monde, et il faut le vivre avec les amis, tous ensemble, les jeunes, les parents, ma mère, il y a mon frère, il y a les enfants, tout le monde.
L'équipe de France à Lille, vous l'avez déjà vue ou pas vous?
C'est la première fois que je viens voir l'équipe de France, c'est la première fois.
Et ben voilà, on espère que ça va porter bonheur à Didier Deschamps et ses joueurs. C'est la cinquième fois que l'équipe de France dispute un match au stade Pierre Mauroy. Sur les quatre précédents, l'équipe de France n'a jamais perdu un seul match nul face à la Suisse. C'était à l'Euro 2016. On espère que l'équipe de France partira sur une bonne dernière prestation à la Coupe du Monde à Boston. Avion dès jeudi pour l'équipe de France.
Merci beaucoup à Alexis Matteucci, décidément très tactile avec les supporters de l'équipe de France ce soir. Allez, plus sérieusement, bravo déjà pour le pari réussi et le maquillage effectivement sur la joue. Restons donc sur le match de ce soir. Messieurs, qu'attendez-vous ce soir de l'équipe de France? Est-ce qu'ils doivent s'imposer facilement contre l'Irlande du Nord, François?
Facilement non, mais c'est le dernier match de préparation, c'est un match de rodage presque, mais il faut qu'ils se mettent là ils sont en configuration équipe type pour la compétition. Ce qui est important c'est qu'ils trouvent leur marque. Après le résultat il est anecdotique, c'est sûr qu'une victoire c'est mieux, mais c'est pas l'essentiel.
Guillaume, ça sert à quoi ce genre de match? C'est du rodage surtout quand on voit par exemple le 11 de départ?
Oui, on savait que les Parisiens ils allaient revenir, donc Dembélé, Désiré Doué, ils allaient être dans l'équipe type.
Saliba aussi.
que Saliba, qui a joué à la Ligue des Champions, la finale Ligue des Champions, allait revenir. Donc du coup, en fait, ça c'est l'équipe type. Faut qu'il, ouais, c'est du rodage. Après, quid des deux latéraux qui sont pas en forme, qui sont Jules Koundé et Hernandez. C'est ça en fait. C'est comment s'ajuster par rapport à ceux qui sont pas en forme, mais qui vont quand même débuter contre le Sénégal le premier match. Et on peut penser que
ça peut être ce 11 là.
Ce sera sûrement ce 11-là. On peut le penser. En tout cas, le milieu de terrain, ce sera ça. L'attaque, ce sera ça.
Milieu de terrain, donc on rappelle, hein, Tchouaméni, Rabiot. Ouais. L'attaque, c'est donc Dembélé, Olysee, Doué, Mbappé. Benjamin, est-ce que ça y est, Didier Deschamps n'est officiellement plus un entraîneur considéré comme défensif ?
Sur des équipes annoncées plus faibles, comme ça peut être pour l'Irlande du Nord, oui, évidemment que jouer à 4, c'est logique, parce qu'il va falloir faire le jeu, on va jouer contre un bloc bas. Je pense que c'est à peu près la même typologie d'équipe qu'on rencontrera sur les 3 matchs de poule. Des équipes qui vont nous attendre.
Même la Norvège ?
C'est parce que même s'ils ont quelques joueurs techniques, forcément on aura la possession de balle. Et à mon avis, oui, je pense qu'ils vont nous attendre.
Après, on l'avait vu en première mi-temps contre la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas photo. Hein. C'est parce que le schéma a changé à la mi-temps. Il a mis un peu l'équipe bis. Et là, sinon, en première mi-temps, face à la Côte d'Ivoire, qui est une très très bonne équipe, eh ben, il n'y avait pas photo. La France avait le ballon, la France allait de l'avant. Normalement, ça devrait être comme ça tous les matchs, même s'il faut faire attention. Évidemment, la Norvège, on a des sacrés joueurs avec Odegaard ou Haaland.
Est-ce que tu vois, par exemple, l'équipe de France passer facilement le premier tour ?
Oui, mais après, ça ne veut pas dire que tu passes facilement, parce qu'il y aura les 16e de finale et les 8e, c'est fort probable qu'il y ait France-Allemagne. Hein. France-Allemagne, c'est vraiment pas sûr de passer. Donc même si tu passes facilement les poules, tu peux, ça dépend le contexte, mais tu peux tomber contre l'Allemagne en 8e.
Ton vainqueur de la Coupe du Monde, ça peut être la France ?
Sera la France.
La France. François, ton pronostic sur cette coupe, qui va la gagner ?
Je vais dire la France, mais ça va être compliqué parce qu'il y a des sérieux candidats.
Benjamin ?
Je ne vais pas être original, mais je pense que la France est favorite. Ouais.
Mohamed ?
Pour moi, c'est la France. Ouais.
Bon, on espère tous effectivement voir la France remporter cette Coupe du Monde. On rappelle donc effectivement les Bleus qui s'envolent à partir de jeudi et qui affronteront le Sénégal d'abord, puis l'Irak et la Norvège. Voilà pour le programme de cette phase de poule. La Ligue 1, elle reprendra le week-end du 23 août, en même temps que Coupe Nord, qui sera de retour donc le lundi 24 ou 25 août. Merci messieurs pour cette soirée de prolongation, ce nouveau Coupe Nord. Merci Guillaume, François, Benjamin et Mohamed. Merci à Clément Kaminski qui était à la réalisation. N'oublie pas Alexis Matteucci et Jean Ducane qui étaient sous la pluie avec les supporters de l'équipe de France avant cette rencontre qui débute dans un peu plus d'une demi-heure à la Decathlon Arena. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve nous à la rentrée. Mine de rien, on va profiter un peu des vacances. Bonne soirée à tous. Salut.